Première considération sur les sacrés et saints stigmates. Saint François avait 43 ans lorsqu'en 1224, Dieu lui inspira de quitter la vallée de Spolète et de se rendre en Romagne avec frère Léon, son compagnon. Dans ce trajet, il vint à passer au pied du château de Montefeltro, où se donnait alors un grand banquet. Un jeune comte allait recevoir l'épée de chevalier. À la nouvelle de cette fête, et du nombre concours de gentilshommes qu'elle avait attirés, le saint dit à son compagnon « Allons au château, nous y ferons, Dieu aidant, un chevalier spirituel. » Au nombre des convives de Montefeltro se trouvait un gentilhomme riche et puissant de Toscane appelé Orlando de Chiusi de Casentino. Depuis qu'il avait entendu raconter des choses si merveilleuses de la sainteté et des miracles de saint François, il avait conçu pour lui une grande vénération, et il souhaitait ardemment de le voir et de l'entendre prêcher. Arrivé bientôt au château, le saint se rendit sur la place où s'étaient assemblés les gentilshommes. Et là, dans la ferveur qui l'animait, il monta sur un petit mur et se mit à prêcher. Il prit pour sujet de son discours ces paroles qu'il prononça en langue vulgaire.
« Tanto il benieco aspetto, coni pena me diletto. »
C'est-à-dire, « Le bien que je désire est si grand que toute peine m'est un plaisir. » Partant de ce texte, il parla sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, et ses paroles étaient pleines de piété et de profondeur. Il cita surtout l'exemple des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges et des autres saints qui, tous, se trouvaient heureux de souffrir pour Jésus-Christ les tourments, les macérations, les tribulations et les tentations. L'auditoire fut vivement ému. Tous les yeux étaient attachés sur le visage du prédicateur, et chacun recevait ses paroles comme si elles étaient sorties de la bouche d'un ange. Orlando, surtout, intérieurement touché de Dieu, en écoutant cette divine prédication, résolut dès lors d'aller trouver saint François, de s'entretenir avec lui des intérêts de son âme et de mettre ordre à sa conscience. En effet, le sermon terminé, il aborda le saint et le tirant à l'écart, il lui dit « Père, je voudrais parler avec vous du salut de mon âme. » « J'accepte avec plaisir cette proposition, » répondit saint François. « Mais à présent, faites honneur aux amis qui vous ont invités. Après le repas, nous converserons ensemble tant qu'il vous plaira. » Orlando se rendit à ce conseil du saint. Lorsque le repas fut achevé, il vint le retrouver et mit ordre avec lui aux intérêts de son âme. À la fin de leur entretien, Orlando dit à saint François « Je possède une montagne appelée Mont Alverne, qui est très propre au recueillement. Elle est isolée et disposée très convenablement pour des hommes qui voudraient y pratiquer la pénitence et y mener une vie solitaire. Si elle vous plaît, c'est de bon cœur que, pour le salut de mon âme, je consens à vous la céder à vous et à vos compagnons. » Ce fut avec une grande joie que le saint reçut une offre si généreuse et qui lui convenait si bien. Il en remercia Dieu dans son cœur et dit à Orlando « Quand vous serez de retour en Toscane, je vous enverrai quelques-uns de mes compagnons. Ils visiteront la montagne et si elle est propre à la vie religieuse et pénitente, j'accepte l'offre charitable que vous m'en faites. » Après cette entrevue, saint François partit du château et quand il eut terminé son voyage, il retourna à Sainte-Marie-des-Anges. Orlando, de son côté, revint aussi, après la fête, à son château de Chiusi, qui se trouvait à 1 000 environ de l'Alverne. De retour à Sainte-Marie-des-Anges, saint François envoya deux frères à Chiusi. Orlando les reçut avec honneur et avec joie. Voulant leur faire voir la montagne, il les fit accompagner de 50 hommes armés pour les défendre contre les bêtes sauvages qu'ils pourraient y rencontrer. Ainsi escortés, les frères montèrent l'Alverne, l'examinèrent avec soin et trouvèrent une petite plaine solitaire et très propre à la contemplation. Ce fut l'endroit qu'ils choisirent pour y fixer l'habitation de leur père et s'y fixer eux-mêmes. Et aussitôt, aidés des hommes qui les avaient accompagnés, ils y construisirent une pauvre cellule de branches d'arbres. Ils acceptèrent donc, au nom de Dieu, la montagne de l'Arverne, prirent dès leur possession de l'endroit qu'ils y avaient choisi et retournèrent vers Saint-François. À leur arrivée, ils racontèrent qu'ils avaient trouvé sur l'Arverne un lieu très propre à l'oraison et à la contemplation. Le bienheureux père en fut comblé de joie, rendit grâces à Dieu et dit à ses frères d'un visage radieux : « Mes enfants, voici que nous approchons de notre carême de Saint-Michel-Archange. Je crois que la volonté de Dieu est que nous le passions sur la montagne de l'Arverne qu'il nous accorde dans sa libéralité. Il faut que, par la pénitence, nous méritions la consolation de consacrer cette montagne à l'honneur et à la gloire du Sauveur, de sa glorieuse mère la Vierge Marie et des saints anges. » Alors, il choisit pour compagnon frère Massé de Marignan d'Assise, homme fort intelligent et d'une grande éloquence, frère Ange Tancrède de Rieti, qui avait été chevalier lorsqu'il était encore dans le monde et qui avait reçu une éducation très distinguée, et enfin frère Léon, qu'il affectionnait singulièrement à cause de sa grande simplicité et de sa pureté de cœur. Puis il se mit en prière avec eux, et, après avoir recommandé aux frères qui restaient de prier aussi Dieu pour le succès de leur voyage, il se mit en route pour la montagne de l'Arverne. Pendant le trajet, il appela frère Massé et lui dit : « Vous serez dans ce voyage notre gardien et notre prélat. Je veux, tant qu'il durera et que nous serons ensemble, que tous nos usages soient conservés. Nous réciterons l'office, nous nous entretiendrons de Dieu, nous observerons la règle du silence, et nous nous inquiéterons de rien au sujet de notre nourriture et de notre sommeil. Seulement, quand viendra l'heure de chercher un logement, nous achèterons un peu de pain et nous prendrons notre repos où Dieu nous conduira. » À ces paroles du Père, les trois compagnons inclinèrent la tête, firent le signe de la croix et poursuivirent leur route. La première nuit se passa dans un couvent de l'ordre. Mais le lendemain, retardés par le mauvais temps et la fatigue, ils ne purent gagner ni couvent, ni château, ni village. Et ils furent obligés de chercher un abri dans une vieille église abandonnée. Pendant que ses frères s'y trouvaient endormis, saint François, resté seul en prière, vit bientôt une grande multitude de démons se précipiter vers lui avec un bruit et un fracas épouvantables. Tous ensemble se mettent à l'attaquer et à le harceler de mille manières, le poussant, le tirant en tous sens et l'accablant de menaces et de reproches. Mais tous ces efforts des esprits mauvais pour le distraire de sa prière était impuissant. Dieu était avec lui. Quand il eut supporté quelque temps les assauts que lui livraient les démons, il cria à haute voix : « Ô esprit maudit, vous ne pouvez rien que par la permission de Dieu. Mais je vous le dis de sa part, faites sur moi tout ce qu'il vous permettra, et je recevrai tout de bon cœur, car je n'ai pas de plus grand ennemi que mon corps. Vengez-vous donc pour moi de ce cruel ennemi. C'est le plus grand service que vous puissiez me rendre. » À ces mots, les démons se ruent avec fureur sur saint François, le saisissent, le traînent dans l'église et lui font essuyer des traitements plus indignes encore que la première fois. Mais le saint, au milieu de ses tortures, se contentait de s'écrier : « Ô mon Sauveur Jésus-Christ, je vous rends grâce de l'honneur et de la charité que vous me témoignez. Oui, je le sais. Les châtiments que vous infligez à vos serviteurs, en punition de leurs fautes, sont un gage de votre bonté à leur égard. Car c'est pour leur faire éviter les peines de l'autre vie que vous les éprouvez ainsi sur la terre. Punissez-moi donc de mes péchés. Faites tomber sur moi toutes les adversités, et je suis disposé à les supporter toutes avec joie, en expiation de mes crimes. » Vaincus par tant de constance, les démons se retirèrent confus. Aussitôt, dans la ferveur qui l'embrasait, saint François sort de l'église, va se mettre en prière dans un bois qui se trouvait tout près, et là, se frappant la poitrine et versant d'abondantes larmes, il s'efforçait de rappeler en lui l'époux et le chéri de son âme. Enfin, il le retrouva dans le secret de son cœur. Et alors, tantôt il lui parlait comme à son seigneur, tantôt il lui répondait comme à son juge, tantôt, il le priait comme son père, et tantôt, il s'entretenait avec lui comme un ami avec son ami. En ce moment, les frères s'étant rendus dans le bois pour y chercher leur père, ils le trouvèrent baigné de larmes et implorant la divine miséricorde pour les pécheurs. Ils l'entendirent aussi pousser des plaintes lamentables sur la passion du Christ, et on aurait cru qu'ils la voyaient se renouveler sous ses yeux, tant sa douleur était vive. Cette nuit encore, ils l'aperçurent, pendant sa prière, tenant les bras en croix, et assez longtemps soulevé au-dessus de terre et environné d'une nuée resplendissante. Suspendu, ce fut ainsi que saint François passa toute la nuit sans prendre un instant de repos. Le matin, voyant qu'après tant de fatigue, il serait trop faible pour continuer sa route à pied, ses compagnons allèrent au village voisin trouver un pauvre laboureur et lui demandèrent, pour l'amour de Dieu, de vouloir bien prêter son âne à saint François, leur père. À ce nom de frère François, dont il avait entendu parler, le paysan dit au frère : « Seriez-vous donc des compagnons de ce frère d'Assise, dont on dit tant de bien ?»« Il est notre père, répondirent les frères, et c'est pour lui que nous venons vous demander votre âne. » Aussitôt, le bonhomme s'empresse de le disposer, le conduit lui-même au saint, qu'il fait monter avec 1000 témoignages de respect. Puis, quand les voyageurs eurent repris leur route, il les accompagna, marchant derrière son âne. Après avoir ainsi cheminé quelque temps, le paysan dit à saint François : « Frère, dites-moi la vérité. Êtes-vous vraiment le frère François d'Assise ?»«
Je le suis, répondit le saint. »
« Eh bien, ajouta le paysan, appliquez-vous donc à être aussi bon que les gens le disent, afin qu'ils ne soient pas trompés dans leur confiance. C'est un conseil que je vous donne. » Loin de mépriser cet avis et de se dire, comme le feraient maintenant bien des orgueilleux portant la cape, « Quel est donc cet imbécile qui se mêle de me donner des conseils ?» Saint François aussitôt se jette à terre, se met à genoux devant le paysan, lui baise les pieds et le remercie de son bon et utile avis. Le paysan et les frères le relevèrent respectueusement, le firent remonter sur l'âne, et l'on se remit en route. Lorsque les frères eurent gravi à peu près la moitié de la montagne, par une grande chaleur et dans un chemin difficile, le paysan, qui les accompagnait toujours, commença à ressentir une soif si ardente qu'il en vint bientôt à murmurer contre le saint. « Ah ! S'écria-t-il, je meurs de soif. Je vais tomber d'épuisement si je n'ai rien pour me rafraîchir. » Touché de compassion, saint François descendit de son âne, se mit en prière et resta à genoux, les mains élevées vers le ciel, jusqu'à ce qu'il connût que sa demande était exaucée. Alors il dit aux paysans : « Allez, courez vers cette pierre, vous y trouverez une source d'eau vive qui s'en échappe maintenant par la miséricorde de Jésus-Christ. » Le laboureur courut aussitôt et trouva en effet une fontaine d'eau limpide qui, par la vertu des prières du saint, jaillissait du rocher le plus dur. Il but copieusement et se sentit fortifié. Une preuve manifeste que cette source fut miraculeusement produite par la puissance divine à l'intercession de saint François, c'est que jamais auparavant on n'avait trouvé d'eau vive en cet endroit, ni même à une grande distance de là, et qu'on n'en retrouvera plus jamais par la suite. Le saint, ses compagnons et le paysan remercièrent Dieu de la faveur qu'il venait de leur accorder, puis ils continuèrent leur route. Lorsqu'ils furent arrivés au pied du rocher même de l'Arverne, saint François voulut se reposer un peu sous un grand chêne qui se trouvait sur le chemin. Et de là, il contemplait le magnifique paysage qui se déroulait sous ses yeux. Mais voici qu'en ce moment, arrive de divers points une multitude d'oiseaux qui témoignaient leur joie par leurs chants et leurs battements d'ailes. Ils voltigeaient tous autour du saint. Les uns se posaient sur sa tête, les autres sur ses épaules, et d'autres sur ses bras, sur sa poitrine et sur ses pieds. Les compagnons de saint François et le paysan contemplaient ce spectacle avec ravissement. Et le saint lui-même, émerveillé de ce prodige, disait tout joyeux : « Je crois, mes bien-aimés frères, qu'il plaît à notre Seigneur Jésus-Christ que nous habitions sur ce mont solitaire, puisque nos petites sœurs et nos petits frères, les oiseaux, témoignent tant d'allégresse à notre arrivée. » Les frères se levèrent et ils continuèrent à gravir la montagne jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés à l'endroit qui avait été choisi d'abord par leurs compagnons. Voilà ce qui regarde la première considération.